Dans le cours du temps ordinaire, nous lisons de manière continue l'Évangile selon saint Luc. Et dans le récit que nous fait l'évangéliste de ce que nous appelons la vie publique de Jésus, Jésus donc a commencé sa prédication en Galilée, à travers les villes et les villages. Il a guéri de nombreux malades, libéré des possédés. Il a réalisé quelques-uns de ces gestes un peu spectaculaires que nous appelons des miracles. Et puis, il est monté sur la montagne pour passer la nuit à prier. Et il a ensuite choisi et appelé parmi ses disciples les 12, ceux qui désormais vont l'accompagner et être toujours avec lui. En fait, juste auparavant, il a commencé à rencontrer de l'opposition de la part de certains des pharisiens et des scribes. Et il est capital de comprendre que c'est parce qu'il rencontre de l'opposition qu'il choisit de s'associer les 12 comme la promesse, le prémisse de la totalité du peuple de Dieu symbolisé par les 12 qui rappellent les 12 fils de Jacob et les 12 tribus d'Israël. Et Jésus donc descend de la montagne et va à la rencontre de la foule, faite de ses disciples, de ceux qui le suivent depuis quelque temps, et puis de toutes sortes de gens qui se sont agrégés à eux ce jour-là, venant, vous l'avez entendu, aussi bien de la Galilée que de la Judée, que même des bordures des pays païens environnants. Dans ce dispositif, Jésus sur la montagne qui descend et qui rejoint la foule, celui qui connaît la Bible, évidemment, entend un écho de l'alliance conclue par Dieu avec le peuple après la sortie d'Égypte, telle qu'elle nous est racontée au chapitre 19 du livre de l'Exode, lorsque Moïse est sur la montagne pour recevoir la loi de Dieu et puis descend de la montagne à la rencontre du peuple. Avec la grande différence qui est que lorsque Moïse descend de la montagne, il trouve le peuple entraîné dans la débauche autour du veau d'or, alors qu'ici Jésus se trouve devant un peuple beaucoup plus diversifié, il n'y a pas que des gens d'Israël au sens strict, et un peuple qui est dans l'attente de ce que lui, Jésus, vient leur apporter. Alors nous pouvons, si nous nous représentons un peu la scène, comme l'évangéliste nous invite à le faire, nous pouvons aussi nous imaginer et ressentir un peu la surprise qu'ont suscité les paroles de Jésus que nous venons d'entendre. « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Ce n'est pas forcément ce que les gens qui étaient là attendaient. Et nous sentons bien que l'impact de ces paroles, le caractère provocant de ces paroles et de toutes celles qui suivent, ne s'est pas émoussé 2000 ans après. Lorsque nous les entendons, nous ne pouvons pas dire que nous nous y sommes encore habitués. « Heureux, vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez, car vous rirez. Heureux quand les hommes vous haïssent et vous excluent, lorsqu'ils vous rejettent à cause du Fils de l'homme. » Sans doute, frères et sœurs, faut-il ne pas chercher trop vite à comprendre ou expliquer ces paroles que nous apprenons les béatitudes, il faut plutôt les laisser retentir en nous, retentir dans la mémoire de notre cœur et les laisser provoquer leur effet. Et pour cela, il nous faut accepter de les entendre, nous les faire entendre, comme nous pouvons le faire dans un temps de prière, de lecture, de méditation de la parole de Dieu. Écoutez simplement le Seigneur nous dire cela, me dire cela. Nous avons entendu ce matin proclamer la version qu'en donne saint Luc. Vous connaissez, nous connaissons mieux celle de saint Matthieu. Saint Luc ajoute à ce que nous appelons les béatitudes d'autres paroles dont le ton peut nous surprendre encore davantage. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Nous ne sommes pas habitués à entendre Jésus parler ainsi, mais peut-être que ces paroles d'avertissement de Jésus, elles peuvent nous aider à comprendre ce qu'il veut dire dans les béatitudes positivement. Parce que, si nous réfléchissons un peu, que vaudrait quelqu'un qui se soucierait d'être repu maintenant sans jamais s'inquiéter de tous ceux qui, de par le monde, souffrent de la faim? Que vaudrait quelqu'un qui se préoccuperait de rire et de se réjouir maintenant sans jamais porter le souci de ceux qui ont des motifs de tristesse ou de chagrin? Que voudrait quelqu'un, quelle serait l'humanité de quelqu'un dont toute l'énergie consisterait à s'emparer du maximum de biens et à en jouir le plus possible, sans jamais porter la moindre inquiétude pour ceux qui autour de lui manquent parfois du nécessaire? Mais le Seigneur Jésus nous emmène plus loin encore. Nous avons entendu l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens nous faire réfléchir, redire la force de la résurrection de Jésus. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Pourquoi l'apôtre parle-t-il de la résurrection des morts avec tant de force ? Sans doute parce que autour de lui, certains chrétiens ou certaines personnes qui commençaient à se réclamer du Christ, pour rendre plus crédible le message du Christ, disaient que nous ne ressusciterions que d'une manière métaphorique. Et alors l'apôtre dit, mais si nous ne nous ressuscitons que d'une manière métaphorique, alors c'est que le Christ n'est pas vraiment entré dans la mort. Et toute la prédication de l'apôtre consiste à insister sur le fait que Jésus est vraiment entré dans la mort, dans notre mort humaine, qu'il a connu vraiment l'état de mort pour en être vainqueur et pour triompher. Mais se pose la question de savoir donc pourquoi nous avons besoin que le Seigneur Jésus vienne à nous. Pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur ? Dans le monde bien organisé, extrêmement efficace techniquement dans lequel nous vivons, le besoin de salut est moins sensible, moins immédiatement perceptible que dans un monde qui souffre habituellement de la famine ou de la disette, ou bien d'épidémies ou de maladies que l'on ne sait pas guérir ni contenir. Nous avons dans notre monde aujourd'hui même des hommes et des femmes qui se font les prophètes d'une victoire prochaine sur la mort grâce à la maîtrise que l'homme a acquise du vivant et des cellules et du travail cellulaire, de sorte que, annonce cela, un jour ne nous mourrons jamais. Quel besoin de salut alors, quel besoin d'un sauveur comme le Seigneur Jésus. Mais vous avez entendu comment saint Paul exprime la résurrection de Jésus. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés, et donc ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Ceux qui rêvent de surmonter la mort biologique et de pouvoir vivre toujours néglige une grande réalité qui est le péché. Et l'apôtre Paul et toute la tradition biblique, au contraire, médite sur le lien entre le fait de notre mort corporelle, biologique, et le fait du péché qui vient ronger notre vie humaine, c'est-à-dire de notre capacité de refuser le don de Dieu ou de le détourner de ses fins, notre capacité de fermer notre cœur, de le scléroser, de nous rendre incapables d'aimer en vérité, notre capacité de nous ériger en centre qui se durcisse contre les autres et par conséquent aussi contre Dieu créateur. Le Christ est entré dans la mort. Le Christ est entré plutôt dans notre condition humaine jusque à connaître notre mort, non pas seulement pour vaincre la mort biologique, mais pour vaincre le péché en nous et pour nous ouvrir à une vie nouvelle dans laquelle nous ne serons plus sous l'esclavage, sous l'emprise du péché, de la fatalité du péché, mais dans laquelle, au contraire, nous pouvons espérer, par la puissance que déploie le Sauveur, nous ouvrir toujours davantage les uns aux autres, devenir capables d'être des vivants qui aident les autres à vivre et qui participent ainsi pleinement à l'œuvre du Créateur, qui nous a voulu si divers et si nombreux, non pas pour que nous nous opposions les uns aux autres, non pas pour que nous nous exploitions les uns les autres, non pas pour que certains profitent des différences entre les uns et les autres pour en tirer des avantages personnels, mais pour que nous puissions nous mettre au service les uns des autres et nous aider les uns les autres dans une communion, dans un échange par lequel nous nous aidons à être des vivants et des porteurs d'une vie toujours plus vivante, toujours plus belle, toujours plus désirable. Et l'insistance de l'apôtre Paul consiste à ce que nous ne diminuions pas l'œuvre du Christ, l'œuvre de Dieu dans le Christ, et que nous osions espérer que Dieu va jusqu'au bout, Dieu le Créateur va vraiment jusqu'au bout de son œuvre et vient dans le Christ nous transformer, nous ouvrir une possibilité de vie nouvelle. Alors, frères et sœurs, à cette lumière, nous comprenons que le Seigneur Jésus ne descend pas vers les foules et vers nous simplement pour nous avertir contre l'égoïsme qui est toujours récurrent dans notre cœur. Nous avons entendu que le prophète Jérémie l'avait déjà fait avec beaucoup de force. Mais le Seigneur Jésus vient non pas simplement pour nous avertir, mais pour ouvrir en nous, installer en nous la source d'une vie nouvelle et la possibilité d'une manière nouvelle de vivre qui soit déjà une anticipation de la vie dans la communion éternelle. Et dans ces béatitudes, il s'adresse à nous en tant que nous sommes des riches ou de ceux qui rient et qui risquons toujours d'oublier nos frères et nos sœurs, et il s'adresse à nous, les mêmes, en tant que nous sommes aussi des pauvres et de ceux qui pleurent, et que nous risquons toujours de désespérer de la vie, que nous risquons toujours de manquer d'espérance en l'existence qui nous a été donnée par Dieu. Et nous risquons toujours de rabaisser ce que nous pouvons faire de cette existence. Le Seigneur Jésus vient donc au milieu des foules, accompagné des 12, non pas simplement pour rappeler une loi ou pour donner la loi de Dieu, et pour venir être en nous, partager notre condition humaine, affronter avec nous et en nous le péché, et même pour venir habiter jusqu'en nous, comme nous l'avons rappelé dans la prière d'ouverture de cette messe, Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, vient faire de nous une demeure digne de toi. Le Seigneur Jésus vient donc, il descend de la montagne, comme il est sorti du sein du Père, pour entrer dans notre condition humaine, pour connaître même notre mort, mais afin de vaincre non pas seulement la mort physique, mais dans la mort physique, l'emprise du péché, de sorte que nous puissions être ouverts à la vie qui pourra se déployer dans la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas peur d'écouter le Seigneur Jésus, de laisser retentir en nous ces paroles exigeantes, qui toujours viennent un peu nous bousculer, nous déstabiliser. N'ayons pas peur des renoncements auxquels il peut nous appeler. N'ayons pas peur des exigences, des dépouillements auxquels il nous faut consentir dans notre vie. Et osons croire que le Seigneur Dieu, le Créateur, ne cesse de travailler en nous pour que nous puissions, nous, mais aussi tous les autres, accéder à la vie éternelle et réjouir éternellement Dieu et nous réjouir les uns les autres dans la communion éternelle que Dieu veut nous partager à nous comme à tous ceux qu'il a suscités. Amen.